Chapitre 33. En perdant le sens de la solidarité, en privilégiant la séparation, nous nous condamnons tout simplement à perdre le sens de l'humanité. Thomas Ralfand. Good Morning London. Pays hors site 1. Ganesh ne distinguait plus la silhouette d'Ava devant lui. L'angoisse lui serrait le cœur. Les gerbes soulevées par le ressac lui frappaient les yeux et lui masquaient la vue. Le sol du surplomb rocheux se dérobait parfois sous ses pas. Il s'appliqua à garder la main contre la paroi, seul point de repère fiable dans ce terrible bouillonnement. Sa tête ballottée frappa durement une excroissance rocheuse. Une douleur vive lui lacéra la tempe. L'eau montait rapidement. C'était maintenant un déferlement violent qui le plaquait contre les parois et, à d'autres moments, l'en écartait et tentait de le précipiter dans le courant. Les grondements assourdissants couvraient les hurlements du soldat de tête. Le sol s'éleva tout à coup. Ganesh émergea peu à peu de l'eau et aperçut les silhouettes des autres plus haut. Pas tous les autres. Les deux soldats, Issa et Leif, étaient parvenus à sortir indemnes de la gorge submergée. Manquaient Hayat et Ava. Il parcourut les derniers mètres du rebord, qui donnait plus haut sur une large plateforme, en espérant découvrir Ava assise ou allongée dans les parages. Mais il lui fallut se rendre à l'évidence. Elle avait été emportée par le torrent. Il poussa un hurlement. Issa, livide, tremblante, lui lança un regard désolé. Un soldat s'approcha de lui.
« Désolé pour votre compagne. Elle suivait Hayat. Elles ont disparu en même temps. »
Ganesh prit conscience de l'importance qu'avait prise Ava dans sa vie. L'apprentie fouineuse impertinente qui recelait d'immenses nappes de tendresse sous son écorce piquante. Il fixa les flots agités en contrebas dans l'espoir insensé de distinguer son corps. Il crevait d'envie de la contempler une dernière fois, même morte. Il refoula l'impulsion qui lui commandait de se jeter dans le torrent. Il ne pourrait pas la retrouver, il le savait. Il parviendrait seulement à la rejoindre dans la mort. Sa vie lui apparut soudain comme un immense trou noir que rien ne réussirait à combler. Il n'avait pas ressenti la même détresse lorsqu'Emmy avait disparu. Il n'avait jamais rien ressenti de tel depuis qu'il foulait la terre des hommes.
Les tueurs étaient derrière nous.
Ce furent les seuls mots qu'il réussit à expulser de sa gorge. Les tueurs. Les combattre. Les neutraliser, c'était sa dernière raison de vivre.
L'eau a dû les submerger, estima Leif. On devrait partir. Elle continue de monter.
Ils traversèrent la partie plane, barrée une trentaine de mètres plus loin par un versant abrupt hérissé de rochers, entre lesquels se déroulaient les larges lacets d'un sentier. Ganesh marchait comme un automate, derrière les quatre autres rescapés. Il ne sentait pas la pluie, ni le froid, ni la fatigue. Son corps lui paraissait étranger. L'idée de ne plus jamais revoir Ava, de ne plus jamais lui parler, de ne plus jamais la toucher, lui semblait inconcevable, absurde. Un soldat repéra un mouflon perché sur une saillie bordant le sentier. Il le coucha en joue et ne tira qu'une seule balle. Touché au poitrail, l'animal tressaillit avant de tomber du rocher. Le soldat le chargea sur ses épaules. Le sentier les conduisit au bord d'un torrent qui surgissait d'un enchevêtrement rocheux et poursuivait sa course bondissante dans la pente.
« On s'arrête là !» proposa le soldat de tête. « On va manger et faire le plein d'eau !»
Ils n'eurent pas à aller très loin pour trouver du bois mort. Les arbres couchés par les tempêtes jonchaient le sol des centaines de mètres à la ronde. Tandis que Leif et un soldat allumaient un feu à l'aide du pyrox, le deuxième soldat découpa une cuisse du mouflon et la dépouilla de son pelage clair. Les premières lueurs de l'aube soulevaient la nuit à l'horizon. Issa vint s'asseoir aux côtés de Ganesh, sur un rocher dominant le cours d'eau, et lui posa la main sur l'avant-bras. « Elle comptait beaucoup pour toi, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, les yeux dans le vague. Il se débattait dans un cauchemar. Il allait bientôt se réveiller quelque part dans un endroit confortable et découvrir Ava endormie à ses côtés.
« Vous vous connaissiez depuis longtemps ?» insista Issa.
« Elle est entrée comme stagiaire chez les fouineurs, » répondit-il.
Son premier parrain ayant disparu, on me l'a confié. On a eu quelques difficultés au début, puis on a commencé à s'apprécier. Elle est partie au moment où les choses devenaient évidentes entre nous. Nous sommes entrés dans une période de perte, de deuil. Tu as perdu des gens, Anilopa?
Ma vie affective était inexistante, comme Carfa. Je n'avais pas de mari, pas d'enfant, je n'entretenais aucune liaison amoureuse, ni même simplement sexuelle. Ma famille se réduisait à une mère que l'excès d'implants génétiques avait transformée en légumes et un frère, adepte de la fin des temps. J'ai tout sacrifié à ma carrière. Je ne laisse derrière moi que du vide.
Les ombres n'ont eu qu'à nous pousser dans l'abîme que nous avons nous-mêmes creusé. Quel était ton rêve ?
Devenir mère, je suppose.
C'était un jeu. Un jeu dangereux et passionnant, encore plus difficile pour une femme. Tu n'as pas idée des saloperies qu'on doit subir lorsqu'on brigue le mandat suprême. On croyait le sexisme définitivement enterré. J'ai reçu un nombre incalculable de propositions sordides. Les hommes des cités, et ça vaut encore plus pour les hommes politiques, ne pensent qu'avec leur queue. J'ai perdu toutes mes illusions et je suis devenu cynique. Le cynisme, c'est la glace qui se forme et s'épaissit autour du cœur. J'ai alors choisi d'utiliser l'obsession des mâles, de leur ouvrir si nécessaire ma bouche et mes cuisses. J'en ai retiré des avantages, mais surtout du dégoût et du mépris pour l'humanité tout entière. Je suis moi aussi tombé dans l'abîme.
L'odeur de la chair grillée se diffusait dans la lumière balbutiante du jour. Nous en sommes restés à l'âge des cavernes. Le murmure de Ganesh peinait à couvrir le grondement du torrent. Nous n'avons pas su évoluer, et une nouvelle espèce a fini par s'imposer.
Pas encore, coupa Issa.
Même si nous trouvions une solution pour neutraliser les ombres, que resterait-il à l'humanité? Une poignée de survivants pas assez nombreux pour assurer la survie de l'espèce?
On ne peut pas exterminer une espèce entière comme ça.
Le visage creusé et clair d'Issa ressemblait à un masque de tragédie percé de deux grands trous sombres à l'emplacement des yeux.
Il reste forcément des hommes quelque part sur cette planète. Nous les retrouverons et nous recommencerons.
On dirait que cette catastrophe te donne de nouveaux motifs d'espérer.
Issa demeura un temps pensive, avant d'acquiescer d'un mouvement de tête. Une rafale de vent plaqua ses cheveux noirs sur sa joue et son front.
Yatsa, nous nous étions fourvoyés dans une impasse. En un sens, les ombres sont venues nous proposer une porte de sortie.
Encore faut-il survivre.
Le regard sombre d'Issa s'enfonça dans celui de Ganesh.
Encore faut-il en avoir le désir. As-tu envie de survivre, Ganesh?
Il s'interrogea un long moment avant de donner sa réponse.
Je crois que oui.
Quand je suis revenu de mon périple dans le sud, tout était dévasté. Des milliers de cadavres couverts de mouches pourrissaient sur la terre craquelée. J'avais passé une grande partie de l'été et de l'automne dans le massif central, piégeant les bêtes et récupérant leurs peaux. Et j'escomptais les troquer contre des armes, des munitions, de la nourriture et de l'argent, mais il n'y avait plus personne sur les marchés pour négocier, marchander, échanger. Le monde était mort, comme terrassé par une peste foudroyante, ou victime d'une malédiction céleste. J'ai alors pris la route du Noyau, une agglomération distante d'une trentaine de kilomètres, espérant qu'elle n'aurait pas connu le même sort qu'Auxerne. Il n'en restait que quelques baraques à demi calcinées, des ruelles jonchées de corps déchiquetés à moitié dévorés par les rats, une odeur pestilentielle et un silence écrasant. Je l'ai exploré et plusieurs jours en espérant trouver des survivants et comprendre ce qui s'était passé. Mais mes recherches n'ont donné aucun résultat. J'ai dû me rendre à l'évidence. Un fléau mystérieux et terrible s'était abattu sur le pays hors site, pour une raison inconnue, et avait exterminé l'ensemble de la population. Je me suis cru condamné à la solitude jusqu'à la fin de mes jours, mais alors que je marchais sur la route du massif central, je suis tombé sur un groupe de femmes et d'enfants planqués dans une grotte. Ils ont d'abord eu peur, puis, lorsqu'ils ont compris que je ne leur voulais aucun mal, ils sont restés avec moi. Il serait plus exact de dire que je suis resté avec eux, m'installant dans le coin et devenant leur protecteur, leur rapportant du gibier et des peaux pour l'hiver. Ils m'ont raconté l'attaque des cavaliers de l'Apocalypse et des engins volants cracheurs de feu. Nous avons recréé une vie de famille à l'abri du rempart que j'ai construit. l'ouvrage le plus solide que, de mémoire d'homme, on ait pu un jour observer sur cette terre.
Le vent chassa les nuages et le soleil brilla de nouveau de tous ses feux dans un ciel presque entièrement bleu. La mer scintillait en contrebas, ridée par une légère houle. Ils avaient pris un peu de repos après avoir mangé les cuisses du mouflon et des champignons bruns cueillis par Leif, et selon lui comestibles.
« Nous nous sommes plantés !» déclara un soldat. « La boussole nous a envoyés au sud, de l'autre côté des Pyrénées. À mon avis, il nous reste une bonne cinquantaine de kilomètres à parcourir. »
Un ours gris énorme se dressa devant eux au sortir d'un méandre du sentier.
« Je croyais qu'il relevait de la légende !»
murmura Leif, impressionné par la taille de l'animal. Les soldats et Ganesh se tinrent prêts à ouvrir le feu. Le plantigrade esquissa plusieurs fausses attaques en poussant des grognements prolongés, puis retomba sur ses quatre pattes, s'éloigna de sa démarche dandinante et disparut derrière les rochers.
« On pouvait pourtant en voir dans les anciennes archives, » précisa Ganesh. « Ils sont apparus une cinquantaine d'années après la Grande Guerre. » Une mutation génétique probablement due aux pollutions chimiques. Il avait prononcé ces mots d'un ton monocorde, comme si sa voix ne lui appartenait plus. Depuis l'aube, il marchait comme un automate, assailli de pensées confuses où se mêlaient le visage mutin d'Ava et celui, plus rond et lunaire, d'Emi. Il s'était interrogé sur ses origines. Pourquoi ses ancêtres avaient-ils quitté leur Kerala natale pour venir s'installer en Occident? Simple raison économique? Motif religieux, il ne se sentait relié à aucune chaîne, comme détaché du tronc de l'humanité.
« J'espère qu'il n'y aura pas d'autres bestioles dans son genre !» lança Leif. « Sinon, on n'aura pas besoin des tueurs pour disparaître !»
Ils attendirent encore quelques instants avant de se remettre en chemin. Comme l'avait annoncé le soldat, ils aperçurent dans le lointain une cité blanche étalée entre les reliefs sombres, barpères probablement.
« Les boussoles sont totalement déréglées. Les pôles magnétiques se sont peut-être inversés, » avança Leif. « Une chose est sûre, il suffit de suivre la mer pour tomber sur Port-la-Nouvelle. »
Les rayons du soleil, bientôt au zénith, dispensaient une chaleur accablante et séchaient leurs vêtements.
« On repasse par Barpère ?» demanda Issa.
« Pourquoi faire ?» grogna Leif.
« Chercher de la nourriture, changer de vêtements, de chaussures ?» On y trouvera peut-être aussi des armes et d'autres équipements.
« De la nourriture, il y en a à profusion dans le coin !» objecta Leif.
« Nos réserves de balles diminuent !» lança un soldat.
« On aura aussi besoin de lampes, de piles, de recharge de pyrox. »«
L'hiver approche !» ajouta Ganesh. « Il nous faut des vêtements chauds et des chaussures adaptées. Ça me paraît être une bonne idée d'y aller. »«
La ville doit être patrouillée par les tueurs !»
Leif appuyait ses arguments de vigoureux gestes de la main.
Ce serait se jeter dans la gueule du loup.
Votons, proposa Issa.
Toi et tes votes, vitupéra Leif. La démocratie est presque toujours la loi du plus con.
Il se tenait au sommet d'une colline, dominant Barpère d'un côté et la mer de l'autre. Des nuées de charognards couvraient le ciel en direction de la cité.
Tu n'es pas obligé de nous accompagner, riposta Issa.
Un sourire amer plissa les lèvres de Leif.
« Si j'ai bien compris, j'ai le choix entre me plier à la connerie ou crever tout seul comme un chien. »
Ils quittèrent les rivages de la Méditerranée pour se rendre à Barpère. Leif hésita avant de leur emboîter le pas, gardant avec le groupe un intervalle d'une dizaine de mètres. La quantité de vautours et de corbeaux indiquait un charnier important. Une immense fosse s'ouvrait au milieu du plateau. Les charognards ne s'enfuirent pas à leur approche, se contentant de pousser des craillements agressifs. Le vent répandait une odeur pestilentielle, accentuée par la chaleur.
« Bon Dieu !» grommela Leif. « C'est une véritable infection !»«
Je crois bien qu'on a retrouvé la population de Barpère !»
marmonna le soldat avancé au bord de la fosse. Il se pencha sur le côté pour vomir ses tripes. Les autres s'approchèrent à leur tour et découvrir les milliers et les milliers de corps enchevêtrés et en voie de décomposition qui jonchaient la gigantesque cavité.
« Quelle horreur !» souffla Issa les larmes aux yeux. « Comment a-t-on pu les transporter là ?»«
À mon avis, ils sont venus tout seuls, » dit Ganesh.
Leurs biopuces ont agi sur une zone précise de leur cerveau et leur ont ordonné de se rendre au bord de cette fosse.
Comment sont-ils morts? Il faut des jours et des jours pour fusiller une population pareille.
Les ombres leur ont sans doute suggéré de se tuer les uns les autres, de faire le boulot à leur place.
Elles n'ont pas procédé de la même façon à Nilopa.
Elles ont cherché l'efficacité maximale en fonction des cités.
Ils sont combien là-dedans?
Demanda Leif au travers de la main qu'il maintenait plaquée sur sa bouche et son nez.
Plusieurs dizaines de millions, sans doute, entassés les uns sur les autres.
Putain, il faudrait une profondeur de plusieurs kilomètres!
C'est probablement le cas. Les charognards s'affairaient autour des dépouilles, leur arrachant des lambeaux de chair de leurs serres et de leurs becs puissants. Les pluies de la nuit avaient laissé des flaques brunâtres entre les amas de corps.
Pas la peine de rester plus longtemps, suggéra Issa. Pour ma part, j'en ai assez vu.
Ils contournèrent la fosse et atteignirent les quartiers extérieurs de Barpère, au milieu de l'après-midi. La cité offrait toujours la même impression d'abandon, de désolation. Ils fouillèrent plusieurs habitations et boutiques pour trouver ce qu'ils cherchaient. Des boîtes de nourriture autochauffantes, des pistolets anciens mais en bon état avec leurs réserves de balles, des lampes à batterie solaire, des couvertures légères, des couteaux, deux pirogues encore pleins, des vêtements chauds, parkas, pantalons, chaussures et enfin des sacs à dos qui leur permirent de transporter le tout. Ils s'interrompaient de temps à autre, alertés par des bruits, craignant l'irruption de tueurs ou de drones. Pas une silhouette, pas un appareil volant ne s'interposa lorsqu'ils reprirent le chemin de la mer, qu'ils atteignirent au milieu de l'après-midi.
« J'avais tort !»
Leif accompagna son aveu d'un sourire contrit.
« Ma nouvelle tenue et mes nouvelles chaussures sont très confortables. Et puis ça fait du bien de porter des vêtements propres.
La démocratie a parfois du bon, n'est-ce pas ?»
grinça Issa.
« Ouais, quand les cons sont en minorité ?»
À la fin du jour, alors qu'ils longeaient un lac séparé de la mer par une barrière rocheuse, des constructions scintillantes se découpèrent dans la lumière rouille du soleil couchant.
« Port la nouvelle, enfin !» s'exclama Leif.
Une parole ne vaut que par la qualité de celui qui la donne. Proverbe Scorp. Pays hors site 2.
Les heures me disent, les hommes méchants, ils sont tout prêts.
Yosp lançait des regards effrayés autour de lui. Ils avaient marché toute la journée sans croiser une seule créature vivante, ni humaine, ni animale, hormis quelques oiseaux blancs et caquetants. Les cavaliers ne s'étaient pas manifestés non plus. Ils s'étaient un peu écartés de la mer pour éviter les enlisements dans les marécages et n'avaient pas mangé, se contentant de boire l'eau légèrement saumâtre des flaques. Kolb leur manquait. Pas seulement le trappeur capable de tendre des pièges n'importe où, mais aussi et surtout l'homme, d'une immense générosité sous ses dehors bourrus. Naya avait gardé son pistolet à la main, mais aucun gibier ne s'était présenté. Elle s'habituait aux caresses des rayons du soleil et des rafales de vent sur sa poitrine dénudée. Son pantalon de cuir déchiré ne tenait plus à la taille que par quelques lambeaux. Elle n'éprouvait plus aucune gêne. Tout autre regard que celui de deux lunes l'indifférait. Elle se sentait belle dans ses yeux, ni trop osseuse, ni trop blanche. Elle n'avait jamais ressenti un tel bien-être depuis sa petite enfance. Elle s'en voulait parfois en songeant à tous ceux qui étaient morts, ceux de sa famille, ceux de son clan, à la violence et au malheur qui déferlaient dans le pays hors site. Mais l'amour de Delune l'avait métamorphosée, chassant d'elle la petite fille complexée et terrorisée des ruelles du noyau. Il avait su dégager son cœur des couronnes d'épines qui le recouvraient et le blessaient. Elle n'avait plus qu'une frayeur désormais, qu'il arrive quelque chose à Delune. Elle serait incapable de lui survivre. Elle n'en aurait ni la force ni l'envie.
« Je vois rien !»
fit Rodag après avoir fouillé les environs du regard. Le jour se teintait d'une pénombre annonciatrice de la nuit.
« Les heures me disent, ils sont tout prêts !»
répéta Yosp.
« Ils n'ont pas d'odeur !»
Le silence du crépuscule parut soudain se peupler de bruits menaçants.
« Ils sont tout prêts, mais est-ce que les heures te disent s'ils ont l'intention de nous tuer ?»
demanda Delune.
« Je sais pas !»«
Pourquoi ils nous tueraient pas ?»
s'étonna Rodag. Si ce sont bien des machines, ils ne prennent pas d'initiative. Ils sont dépendants de ceux qui les commandent.
Port-la-Nouvelle est encore loin, à ton avis ?
Les marées nous ont retardés, mais on devrait plus tarder à y arriver.
Les enfants sont fatigués.
D'accord. Cherchons un endroit pour passer la nuit. Le paysage plat n'offrait pour l'instant aucun abri. Aussi loin que porte le regard, la végétation se limitait à quelques roseaux et arbustes rabougris. Les collines, dont les ombres arrondies se profilaient à l'horizon, étaient probablement distantes de plusieurs kilomètres. Alors que les premières étoiles s'allumaient dans le ciel, ils arrivèrent sur une immense plage hérissée de constructions sur pilotis délabrés. Ils en recensèrent trois, à peu près intactes et pourvues d'échelles, qui permettaient d'accéder à la terrasse et à la partie habitable. L'état des barreaux indiquait qu'elles étaient habitées, ou qu'elles avaient été habitées, récemment. Rodag, Elvar et leurs enfants s'installèrent dans la plus grande, la plus proche également de la mer. Yana et Yosp dans la plus petite des trois, et Naya et Delune grimpèrent dans la dernière, meublée d'un lit en bois, d'une table circulaire et de trois chaises en paille. Ils y trouvèrent des vêtements ravaudés et imprégnés d'une forte odeur de transpiration froide. Des restes de nourriture également, décomposés et infestés de vers. Naya ouvrit les volets en bois d'une fenêtre pour aérer et jeter les déchets qu'elle enveloppa dans un tissu. Puis, elle passa en revue les divers vêtements. Pas un seul ne lui plaisait, et de toute façon ils étaient trop puants pour qu'elle envisage de les mettre en contact avec sa peau. Il aurait fallu les laver. Elle n'en avait pas le temps. Ils étalèrent sur le matelas de paille des pans d'étoffe à peu près propres qu'ils secouèrent, jusqu'à ce qu'ils soient débarrassés de leur poussière. Naya prévoyait de se servir de l'un d'eux comme d'un châle ou d'un manteau. Ils tirèrent ensuite les chaises sur la terrasse et observèrent le ciel qui s'assombrissait, oubliant la faim qui les tenaillait. Naya ne pouvait se défaire du pressentiment qui se déployait en elle en même temps que la nuit. Elle glissa sa main dans celle de Delune. « J'ai peur pour demain, » murmura-t-elle. « Qui sait ce que sera demain? Nous nous faisons une montagne de ce qui n'est peut-être qu'un tas de cailloux. » Les voix de Yosp et de Yana, provenant de la construction voisine, résonnaient dans l'obscurité entre les soupirs des vagues. « Si Port-la-Nouvelle est bien le refuge des cavaliers, nous allons nous jeter dans la gueule du loup. Nous allons seulement regarder le loup dans les yeux. Que risquons-nous? La mort? Elle nous attend de toute façon. » La tête de Naya vint se poser sur l'épaule de Delune. Maintenant que je t'ai trouvé, j'ai pas envie de mourir tout de suite. J'ai envie d'une longue vie avec toi. J'ai envie d'enfants avec toi. Il la prit par le menton, lui releva la tête et la fixa un long moment. Moi aussi, Naya. J'ai envie de tout ça avec toi. Mais si nous ne nous débarrassons pas des cavaliers et de ceux qui les commandent, nous vivrons en permanence dans la peur. Peur pour nous, peur pour nos enfants. Nous serons comme des animaux sans cesse terrorisés par la menace des prédateurs. Nous ne pourrons plus jamais relever la tête et contempler le ciel. Est-ce vraiment la vie que tu souhaites ? Naya secoua lentement la tête. Des larmes roulèrent sur ses joues. Le pays Orsite a déjà tellement souffert. J'ai l'impression que le sort s'acharne sur nous. Si nous avions développé nos qualités, au lieu de nous combattre et de nous diviser, les cavaliers ne nous auraient pas aussi facilement exterminés. Ceux qui les commandent n'ont fait qu'exploiter nos faiblesses. Je crois même que nous leur avons nous-mêmes ouvert la porte pour nous éliminer. Comment ? Delune demeura songeur, les yeux levés vers les étoiles. La maladie ne se déclare que lorsque les défenses sont faibles, reprit-il. Elle est en quelque sorte la réponse à la faiblesse du corps, une sonnette d'alarme pour inciter le corps à se renforcer. L'humanité était un corps fragmenté, malade. Les cavaliers sont son virus, sa sonnette d'alarme. Il arrive que le virus finisse par terrasser le corps, non ? Les pleurs des enfants de Rodag dominèrent un instant les autres bruits. Elvar parvint à les consoler d'un chant ravissant. « Ils ont faim, » dit Delune. « Moi aussi, d'ailleurs. Demain matin, il faudra absolument trouver de quoi manger. » Naya glissa la main sur la plaie en voie de cicatrisation près de la hanche du guérisseur. Ta blessure ne te fait pas mal ? Elle me tiraille de temps en temps. Elle ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Quand le virus terrasse le corps, c'est que le corps n'a plus la force de vivre. Il ne s'agit là encore que d'une réponse adaptée. Allons nous coucher. Nous oublierons la faim. Naya se leva et entraîna Delune en direction de la maison. Archivage et analyse des données.
Je la hais. Elle a pas voulu de moi. Elle s'est bien foutue de ma gueule. Je la tuerai.
Probabilité 13%.
Ce connard, il nous a invités seulement pour nous narguer. Combien il a payé pour son appartement? Combien de fonctionnaires de la mairie il a arrosé?
3. Coût de la corruption, $120 000.
Il me faut ce poste, absolument. Ne pas leur montrer. La jouer fine, il va me mépriser si je ne l'obtiens pas. Déjà qu'il a menacé de partir, déjà qu'il ne me touche pratiquement plus.
Poste obtenu.
Elle a deviné que je l'ai trompé, j'en suis certain. Elle me regarde d'un air bizarre ces derniers temps. J'ai pourtant pris mes précautions. À moins que cet enfoiré de Ruango ne lui en ait parlé. Je suis sûr qu'il en pince pour elle. Sa façon de la bouffer des yeux. Et elle, la poule, elle glousse dès qu'il ouvre la bouche. Et si c'était eux qui... Putain, elle et lui!
Divorce demandé et obtenu par le mari.
Maman ne m'a jamais aimé. Elle n'a jamais aimé personne. Qui est encore capable d'aimer dans cette cité? Mon mari ne m'aime pas. Je ne l'aime pas non plus. Mes enfants ne m'aiment pas. Je ne les aime pas non plus.
Pas de réponse.
J'ai éprouvé un drôle de sentiment lorsque ma lame lui a tranché le cou, que son sang m'a éclaboussé. Entre jouissance et répulsion, merde, j'ai bien peur d'avoir laissé des traces. Ces salopards de fouineurs vont me retrouver. Je suis bon pour le redressement génétique. Pas envie d'être vidé d'une partie de ma tête. Pas envie d'être transformé en légume pour le restant de mes jours. Elle l'a bien mérité, cette conne. Ça lui apprendra à se foutre de moi.
Meurtrier arrêté et condamné à un redressement génétique de 90%.
Foutre le camp, maintenant. Marty m'a parlé des réseaux souterrains. Faut que je l'appelle. Putain, je suis sûr que mon endophone est sur écoute. On n'est plus tranquille nulle part.
Perte de contact avec élément. Un hurlement strident retentit et resta un long moment en suspension dans le silence. Un ray de lumière sous la porte indiqua à Naya que le jour s'était levé. Delune n'était plus dans le lit. Elle s'enveloppa dans un tissu et se rendit sur la terrasse où elle vit Rodag escalader l'échelle qui montait à la maison occupée par Yosp et Yana. Il disparut à l'intérieur, en ressortit quelques instants plus tard en souriant. Aperçut Naya accoudée au garde-corps de la terrasse et lui adressa un clin d'œil.
« Qui a crié ?»
lui demanda-t-elle.
« Yosp !»
répondit-il.
« Yana a tenté de l'initier à... enfin... à l'union d'un homme et d'une femme, et ça l'a terrorisé encore plus que les cavaliers. »«
Tu n'as pas vu Delune ?»«
Il n'est pas avec toi ?»
Accompagné d'Elvar et de ses enfants, ils cherchèrent le guérisseur entre les constructions effondrées. Le soleil éclaboussait le ciel et la mer de ses lueurs roses et or. Des débris de bois jonchaient le sable, ainsi que des algues séchées et des poissons décomposés. Delune ne répondit pas à leurs cris.
« J'espère qu'il n'est pas parti tout seul affronter les cavaliers, » souffla Naya.
« Ce serait bien son genre, » affirma Rodag. « On n'a pas d'autre choix que de l'attendre et de chercher de quoi manger. »
Le géant coupa une branche morte, la tailla en pointe et s'avança dans la mer jusqu'à la taille. Il plongea à plusieurs reprises son harpon rudimentaire dans l'eau, sans aucun autre résultat que des éclaboussures.
« Oh, les hommes, ils savent pas s'y prendre !»
soupira Elvar. Elle se défit de sa robe et, entièrement nue, elle entra à son tour dans la mer. Elle prit la branche taillée des mains de Rodag, la leva au-dessus de sa tête et se tint immobile, les yeux rivés sur la surface. Elle l'abattit une première fois au bout de quelques secondes, sans toucher un seul des poissons vifs argent qui nageaient autour d'elle.
« Pas beaucoup mieux !»
s'exclama Rodag avec un sourire. Elvar haussa les épaules et se remit en position. Les enfants suivaient avec une inquiétude amusée les évolutions de leurs parents. Naya, elle, observait les environs avec une angoisse grandissante. Où était passé Delune? Était-il vraiment parti sans la prévenir? Elvar effectua encore 3 tentatives sans attraper un poisson. Elle rendit la branche taillée à son mari, sortit de l'eau, ruisselante, et s'essuya vigoureusement avec sa robe.
« Pas la peine de vous énerver, j'ai trouvé de quoi manger !»
Naya tressaillit de joie. Delune se tenait derrière eux, souriant, portant un sac de tissu.
« Je me suis réveillé tôt, » continua-t-il. « J'ai exploré les environs et j'ai trouvé des réserves de nourriture en parfait état de conservation un peu plus loin. Je pense qu'elles appartenaient au peuple qui habitait ici. Ils les avaient entassées dans un coin sombre et sec. »
Il rapportait une grande quantité de poissons fumés, des galettes dures faites d'une céréale jaune et des fruits séchés. Ils s'installèrent sur le sable
pour manger. Yosp et Yana les rejoignirent au bout de quelques instants. Tout en dévorant, le petit homme ne cessait de lancer des regards terrorisés vers l'adolescente. « Il faut pas avoir peur de l'amour !» lança Elvar avec un sourire. Yosp finit d'engloutir sa bouchée de poisson avant de dissimuler son visage derrière ses mains en éventail.
« Je sais pas !»
bredouilla-t-il. « Quand on ne sait pas, on doit apprendre !» insista Elvar.
« Surtout quand on a une si jolie professeure !»
L'intervention de Rodag lui valut un regard noir de sa femme.
« Ne t'en fais pas, Yosp !» dit Delune. « L'amour est sans doute ce qu'il y a de plus facile et de plus difficile à apprendre. »
Le soleil miroitait dans les façades des bâtiments qui se dressaient sur la rive opposée de l'étang.
« Les maisons transparentes des cavaliers !»
s'écria Yosp.
« Les heures me l'avaient dit !»
Naya décela des mouvements dans le lointain. Mais il s'agissait sans doute d'animaux évoluant dans les roseaux qui bordaient la rive. Des objets volants jaillirent de l'une des constructions et se fondirent dans le ciel en abandonnant derrière eux des sillages blanchâtres.
« Nous sommes presque arrivés. Nous n'avons plus qu'à contourner l'étang. »
Delune se tourna vers Rodag et Elvar. « Vous n'êtes pas obligé de venir. »«
Je t'ai promis de t'aider à combattre les cavaliers de l'Apocalypse quand tu m'aurais aidé à délivrer les miens, » répondit le géant. « J'ai bien l'intention de tenir ma promesse. »
« Tes enfants ont besoin de leur père. »
« Nous en avons parlé, Elvar et moi, la nuit dernière. Elle restera en arrière avec eux, jusqu'à ce que nous en ayons terminé. »«
Vous connaissez les risques ?»«
Nous les acceptons, » intervint Elvar. Elle désigna ses enfants d'un mouvement de tête. « C'est aussi pour eux que Rodag se battra. » Delune les remercia d'un sourire. « Et toi, Yosp ?»«
Je viens avec vous. »
« Tu n'as pas peur ?»«
Très peur, oui, mais j'aurai encore plus peur loin de vous. »
« Yana ?»
L'adolescente remonta d'un geste décidé la mèche qui lui barrait le front.
« J'ai aussi une dette envers vous, et je la paierai. »
Ils laissèrent à Elvar et aux enfants des vivres qui leur permettraient de tenir 3 ou 4 jours. Pour s'abreuver, il puiserait l'eau légèrement saumâtre de l'étang qu'il filtrerait avec un pan de tissu. Le géant embrassa ses enfants, serra son épouse à l'étouffer, puis, allongeant le pas, rejoignit les autres déjà en chemin entre les roseaux. Une forêt dense, par endroits inextricables, s'étendait sur la rive de l'étang. Des arbres couchés les contraignaient parfois à d'importants détours. Des grenouilles brunes sautaient des nénuphars habillant les mares croupies.
« Attention de ne pas vous faire mordre !» prévint Delune. « Leur venin vous tuerait en quelques secondes. Vaut mieux passer au large !»
Ils avaient l'impression de se perdre dans le dédale végétal. Ils ne voyaient plus l'étang ni le ciel, n'avaient donc plus aucun point de repère. D'énormes araignées velues et noires couraient le long de fils tendus entre les branches. Leur toile, qui atteignait parfois un diamètre de 2 mètres, piégeait non seulement les insectes, mais également des petits oiseaux au plumage coloré. Une odeur tenace de putréfaction flânait entre les herbes presque noires et les buissons aux branches épineuses et jaunes. Ils retrouvèrent l'étang 3 ou 4 kilomètres plus loin. Ils débouchèrent sur une grève étroite et boueuse, où ils revirent les bâtiments scintillants plus proches, signe qu'ils avançaient dans la bonne direction. Des objets volants traversèrent de nouveau le ciel dans un grésillement à peine perceptible, en traçant leur sillage blanc et rectiligne.
« Les heures me parlent !»
haleta Yosp.
« Elles me disent que la force terrible est là, qu'une partie d'elle est là. Elles n'aiment pas les hommes, elles veulent les tuer tous. »
« Comment ça, une partie d'elle ?» releva Naya.
« Je sais pas !»
« On peut pas être en partie quelque part et en partie ailleurs. »«
La force, elle peut, les heures me le disent. »
« Elle a peut-être des caractéristiques que nous ignorons, » avança Delune. « Elle n'est pas humaine. »
Ils s'enfoncèrent dans la forêt, toujours aussi dense, figée, comme frappée d'un sortilège. La chaleur grimpait rapidement, chargée d'humidité, irrespirable. Les branches craquaient sous leurs pas, déclenchant les coassements agressifs et les sauts des grenouilles brunes. Des nuées d'insectes bourdonnaient autour d'eux, semant des chapelets de piqûres sur leur peau. Naya étouffait sous le pan d'étoffe enveloppant son torse. Yana, elle, s'était débarrassée de son propre tissu, préférant offrir sa peau aux piqûres des insectes plutôt que de mariner dans la chaleur moite. Vêtue d'un seul pagne, elle puisait régulièrement de l'eau dans les mares pour s'en asperger le cou et la poitrine.
« Les heures me disent, il faut pas aller tout droit !»
cria Yosp.
« La terre qui bouge veut nous manger !»«
Tu sais par où passer ?» demanda Delune. Yosp garda quelques instants la tête penchée avant de s'élancer en direction de deux troncs couchés.
« Il faut me suivre maintenant ! Me suivre !»
Mettant leurs pas dans ceux du petit homme, ils traversèrent la forêt et débouchèrent enfin sur une lande désolée non loin du premier bâtiment transparent. Ils n'eurent pas le temps de s'en approcher. Des silhouettes jaillirent des hautes herbes derrière eux, accompagnées des cliquetis caractéristiques des crans de sûreté d'armes à feu.